France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Nous sommes à Röszke, en Hongrie, à quelques centaines de mètres de la frontière avec la Serbie. C'est par ces chemins de fer qu'arrivent les demandeurs d'asile.
On est devant une invasion migratoire. Voilà. Qui ose le dire ? Ils sont 50 millions à attendre derrière.
Ce sont des millions et des millions qui sont derrière et qui poussent.
Et derrière cela, une volonté, la dissolution de nos identités nationales.
Est-ce qu'on n'a pas honte en France ? Le pays des droits de l'homme, c'est quand des gens sont en détresse, eh bien on les accueille.
Voilà, c'est ce qu'on pouvait entendre l'automne dernier, un débat politique français passionné et parfois hystérique. D'un côté, il y avait ceux qui voulaient repousser une vague migratoire de Syriens qui allait nous déstabiliser, et en face, ceux qui plaidaient pour un très large accueil au nom de la défense des droits de l'homme. Eh bien, tout le monde se trompait. C'est ce que l'on va voir avec vous, Jacques Monin. Bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Tout le monde se trompait, Jacques, parce qu'on avait juste oublié une chose, c'est que les Syriens, dans leur très grande majorité, n'ont aucune envie de venir en France. Hein.
Alors, c'est en effet très frappant lorsque, au-delà des discours, on va voir ce qu'il en est sur le terrain. Alors, si vous le voulez bien, on va se rendre, pour commencer, à Rennes. Vous vous souvenez peut-être qu'au plus fort de la crise, l'été dernier, la commune avait fait part de son souhait d'accueillir des réfugiés syriens. Les élus s'étaient mobilisés. Eh bien, 6 mois plus tard, surprise, très peu de personnes sont arrivées. Et écoutez, ça étonne la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéret, compte tenu des moyens qu'elle avait dégagés.
Concrètement, c'est une centaine de places que la ville de Rennes avait déjà mobilisées. Et lorsque l'État a appelé à cet effort de solidarité, on a pu repérer une trentaine de logements supplémentaires permettant l'accueil des réfugiés. Et sont arrivés depuis uniquement, je dois le dire, 7 nouveaux réfugiés syriens. Et je suis surprise, mais comme la plupart de mes collègues maires, que nous n'ayons pas été forcément plus rapidement et plus massivement sollicités.
7 personnes, effectivement, on est très loin du raz-de-marée redouté par certains qu'on pouvait entendre tout à l'heure. Surtout que Rennes n'est pas un cas isolé.
Non, on peut faire le même constat en zone rurale. 11 maires de Haute-Garonne s'étaient eux aussi proposés pour accueillir des réfugiés syriens. Eh bien, au final, c'est une seule famille qui s'est installée à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse. Alors que là encore, tout était prêt pour en accueillir plus, nous dit Christophe Borgel, le député PS de la circonscription.
Des mairies ont dit qu'elles avaient potentiellement des possibilités de logement, en tout cas qu'elles voyaient tel bâtiment inoccupé, qu'il fallait un peu aménager, tel logement communal qui avait été laissé un peu en déshérence et qu'il fallait rénover. Et nous avons accueilli à l'automne une famille de réfugiés syriens. Je crois que dans le département de la Haute-Garonne, la seule famille accueillie, c'est celle qui est à Ramonville.
Une seule famille en Haute-Garonne, très peu de Syriens à Rennes, et c'est la même chose hein, partout en France. Mais alors, où sont-ils ces réfugiés ?
En Allemagne, en Suède, mais en tout cas pas en France. Et c'est assez simple à comprendre. L'Union européenne a recensé 1 million de demandes d'asile en 2015. Sur ces 1 million, il y avait 315 000 Syriens. Et sur ces 315 000 Syriens, eh bien seuls 5 000 ont fait leur demande en France. Alors oui, c'est un chiffre qui augmente. Il a doublé par rapport à l'année précédente, mais c'est quasiment rien. Écoutez Vincent Bourget, c'est le porte-parole d'Eurostat à Luxembourg. C'est l'organisme qui fait référence en matière de statistiques en Europe. Il n'accorde jamais d'interview, mais il a fait une exception pour Secret d'Info et il nous confirme que 5000 demandes d'asile en France, c'est une goutte d'eau.
En Allemagne, on en comptabilisait pratiquement 100 000. En Hongrie, on est à 65 000. En Suède, on est à 40 000. Et même des pays auxquels on ne pense pas forcément directement, mais comme la Bulgarie, le Danemark et les voisins belges et espagnols, ont accueilli aujourd'hui plus de réfugiés syriens que la France.
Oui, vous le voyez, on est donc très mauvais pour l'accueil des réfugiés syriens. Et écoutez, si on prend encore un peu plus de hauteur, le constat est encore plus sévère.
Au niveau européen, c'est 1% des demandes d'asile de Syriens qui sont effectuées en France, un peu plus d'1%, 1,3% pour être précis. Bon, pour faire simple, on est en 11e position sur les 28 pays de l'Union européenne quand on demande d'asile de personnes syriennes.
11e position, derrière donc des pays comme par exemple la Belgique, 6 fois moins d'habitants, mais 2 fois plus de Syriens accueillis. un classement, hein, si l'on peut dire, d'autant plus surprenant que la France pourtant a une tradition d'accueil des réfugiés.
Bah oui, il faut savoir qu'entre 2008 et 2012, la France était le premier pays pour l'accueil des réfugiés en Europe.
Les temps ont donc bien changé. En tout cas, cela veut donc dire qu'entre l'émotion suscitée par l'exode massif des Syriens, c'était l'été dernier, et la réalité en France, il y a comme un gouffre.
Ben, ça paraît évident, et c'est d'ailleurs ce qui met en colère Pierre-Henri, qui est lui le président de l'association France Terre d'Asile.
Depuis le début, en réalité, de la crise syrienne, la France a adopté une attitude extraordinairement réservée, voire frileuse. Nous ne remplissons pas notre devoir humanitaire. C'est cela, la réalité. Et nous sommes loin des images qui ont déclenché une grande émotion entre la fin août et le début septembre, particulièrement dans notre pays.
Alors il y a cette frilosité française dénoncée par ce responsable associatif, mais c'est loin d'être l'unique raison. Vous vous êtes plongé, Jacques Monin, dans la seule étude réalisée à ce jour auprès des Syriens qui viennent de mettre le pied en Europe.
Oui, c'est une étude du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui a interrogé 1245 Syriens entre avril et septembre 2015. Alors on se rend compte que la moitié d'entre eux veulent aller en Allemagne contre, écoutez bien, seulement 0,4% qui disent vouloir aller en France. C'est un différentiel énorme.
Alors pourquoi un tel différentiel ?
Et ben à 80%, parce qu'ils pensent pouvoir gagner leur vie outre-Rhin. Et ce pari sur un emploi, c'est un critère qui semble effectivement essentiel au député Christophe Borgel.
Je crois que l'élément qui joue principalement dans le choix des pays, au-delà de ce qu'a pu dire l'Allemagne sur l'accueil, c'est le sentiment d'aller dans des pays où il sera plus facile, pour des raisons économiques, de s'en sortir. Parce que bien sûr, on fuit la guerre, on fuit la persécution, mais on sait qu'il va falloir trouver les moyens de faire vivre une famille, les pays vers lesquels se dirigent principalement les réfugiés aujourd'hui spontanément. Ce sont des pays où le taux de chômage est relativement bas, ce qui n'est malheureusement pas la situation de notre pays.
L'espoir donc de trouver un travail dans certains pays, mais pas en France. Cela dit, il y a aussi d'autres critères, Jacques Monin, qui expliquent le choix de la communauté syrienne.
Oui, on se rend aussi plus facilement dans un pays où il existe déjà des communautés qui seront à même de vous accueillir, de vous comprendre, de parler votre langue. Or, contrairement à l'Allemagne, ou même à la Suède d'ailleurs, en France, la communauté syrienne est peu représentée. Écoutez ce qu'en dit Mourad Derbak, qui dirige lui la division Méditerranée à l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
Les proches et moyens orientaux ont toujours été très peu nombreux parmi les demandeurs d'asile en France. Avant la crise syrienne, avant 2011-2012, nous avions chaque année environ 500 demandes à l'OFPRA de personnes originaires du Proche et Moyen-Orient. La Syrie était au 45e rang des pays de l'OFPRA. C'était 0,02% de la demande d'asile, c'est-à-dire au maximum, lorsque un bateau s'est échoué sur les côtes varoises, 100 demandes d'asile. Et sinon, le plus souvent, entre 30 et 50 par an. Il y avait très peu de réfugiés syriens en France. Il y avait une communauté de résidents syriens, d'anciens étudiants par exemple, mais il y avait très très peu de demandeurs d'asile ou de réfugiés syriens.
Peu de promesses d'emploi, pas de communauté syrienne en France, contrairement à l'Allemagne. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle les Syriens nous boudent.
Oui, alors ça va peut-être vous choquer, mais c'est aussi parce que notre pays a mauvaise réputation, notamment en Allemagne, où on a de nous l'image d'un pays qui traite mal ses réfugiés. Écoutez ce qu'en dit justement la journaliste allemande Verena von der Schau, qui a suivi de près en France la crise des migrants, notamment à Calais. Son regard est très instructif et l'image qu'elle nous renvoie n'est pas très reluisante.
L'Allemagne a accueilli 1 million de personnes l'année dernière. Il n'y en a pas un qui vit sous une tente, dans la boue, sans médecin, sans eau courante, sans douche, comme c'est le cas à Calais ou à Grande-Synthe. Ils ont tous leur smartphone, ça va hyper vite sur les réseaux sociaux. Et ils vous disent tous que la France a vraiment mauvaise réputation. L'OFPRA est allé à Munich, à la gare de Munich, où ils arrivaient tous depuis l'Autriche, enfin depuis la route des Balkans, et avaient libéré, je crois que c'était 2000 places. Il y avait des bus qui partaient de Munich pour venir en France. Et ils ont trouvé que 800 personnes qui voulaient bien venir en France. L'OFPRA était à Munich et proposait des places d'accueil en France. Et ils ne voulaient pas venir.
Un constat plutôt accablant, nous accueillons mal les réfugiés et ils se font passer le message. Ce que d'ailleurs vous avez pu vérifier, hein, Jacques Monin, auprès d'une Syrienne qui fait partie de cette toute petite communauté syrienne qui vit en France.
Oui, alors elle a choisi la France parce qu'elle y a fait ses études il y a longtemps et parce qu'elle avait des amis à Paris. Elle vit donc aujourd'hui avec son fils de 12 ans dans un centre d'accueil de Créteil. Et elle confirme effectivement que ses compatriotes ne veulent pas venir, mais pas seulement à cause des images de Calais. Elle explique que c'est aussi parce qu'ils pensent qu'on ne leur accordera pas l'asile en France.
Vous avez l'image d'être un pays, c'est pas accueillant, mais difficile. Quand je dis, par exemple, devant mes amis que je viens en France, tout le monde, il me dit non, va en Allemagne. La France, il va pas vous donner la statut de réfugié, il refuse tout le monde. Tout le monde, il pense d'y aller ailleurs. Tous, ils sont proposés l'Allemagne, le Norvège, Danemark, Suède, ça veut dire tous les pays d'Europe, mais pas la France.
Surtout pas la France, disent donc les amis de cette Syrienne, parce que la France a la réputation d'accorder au compte-goutte le statut de réfugié politique. Est-ce que cette réputation est ou non méritée?
Alors elle l'a été, mais les choses ont évolué. Il faut savoir qu'il y a eu en juillet dernier une réforme du droit d'asile qui a raccourci les délais. La plupart du temps, un demandeur d'asile a une réponse sous 3 mois, alors qu'avant, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an et demi, et 97% des Syriens obtiennent cet asile en France. Mais le problème, c'est qu'une réputation, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, il est difficile de s'en défaire. Et Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, pense qu'il paye encore la politique de ses prédécesseurs.
Jusqu'à il y a 3 ans, lorsque vous demandiez l'asile en France, vous aviez plus de chances d'être reconnu réfugié par le juge en appel, la Cour nationale du droit d'asile, que par l'OFPRA en première instance, ce qui était une anomalie. Nous avons inversé cela. Donc il y a eu sans doute, nous le voyons lorsque nous parlons à des migrants syriens, par exemple à Calais, ils nous disent « Non mais attendez, ça va prendre beaucoup trop de temps en France ». Alors même que depuis 3 ans, nous faisons en sorte que la procédure soit courte. Mais il y a un effet de réputation qui continue à parfois à fonctionner.
Une procédure qui a été raccourcie, dont acte. Cela dit, tout ne fonctionne pas encore au mieux. En France, ça reste un petit peu comment faire simple quand on peut faire compliqué.
Oui, alors c'est sûr que si on compare avec ce qui se passe en Allemagne, où on a mis en place des centres d'accueil dans les gares, avec ce qui se passe en France, il y a encore effectivement un gouffre. La journaliste allemande Verena von der Schau connaît bien les deux systèmes et c'est intéressant de l'entendre parce qu'elle, elle ne comprend pas par exemple pourquoi chez nous, pour se rendre à l'OFPRA, c'est un vrai parcours du combattant.
La France, depuis 20 ans, elle veut décentraliser ses administrations. Elle n'y arrive pas super bien. Par contre, il y a une administration qui est décentralisée, c'est l'OFPRA, par exemple. L'OFPRA est à Fontenay-sous-Bois. Moi, je suis tombée sur des migrants à La Chapelle cet été, qui étaient là avec des papiers qui tournaient dans tous les sens, qui ne parlaient pas un mot de français, qui me disaient « Mais c'est où ça ?» Alors, j'étais là. Alors, tu dois prendre la ligne 4 du métro, mais dans la bonne direction. Et puis, au Hall, qui est quand même juste la plus grosse gare d'Europe, il faut que tu trouves le RER A et il faut que tu le prennes vers l'est. Mais alors, attention, parce qu'il y a une fourche, donc faut pas aller vers Euro Disney, mais il faut prendre l'autre. Enfin, et après, tu es à Fontenay-sous-Bois, ça te coûte 5 euros de métro. Et après, à Fontenay-sous-Bois, faut trouver... Enfin, c'est délirant. Pourquoi l'OFPRA n'est pas à la gare de l'Est ou à la gare du Nord ou, enfin, je sais pas, moi, c'est à un endroit où les gens la trouvent.
Alors même si, comme on l'a entendu, venir en France pour un Syrien, cela apparaît très compliqué, il y a quand même 5000 Syriens qui ont fait une demande de réfugiés durant l'année 2015. Est-ce qu'on connaît un petit peu précisément leur profil?
Alors ce que vous disent tous ceux qui travaillent auprès des réfugiés, c'est que ce profil a évolué entre les tout premiers arrivés au début de la crise, en 2012, et les 5000 qui sont donc arrivés l'an dernier. On est passé en fait d'un profil d'activiste politique à un profil plus généraliste, remarque que Mourad Derbak, le monsieur méditerranéen de l'OFPRA.
Spontanément, ça a été des profils très marqués de militants. Des personnes qui étaient déjà militantes sous le régime du père, Hafez el-Assad, et à l'occasion des événements de 2011, le militantisme étant plus fort que tout, avait repris encore une fois des activités, au moins d'information, de coordination, etc. Donc des gens qui étaient, qui avaient fait des études, notamment, qui avaient même une certaine notoriété. Mais on a vu à partir de cette année, je crois, vraiment un exode de la société civile, avec beaucoup plus de commerçants, d'étudiants qui n'étaient pas spécialement engagés, mais qui avaient essayé tant bien le mal de poursuivre leurs études et qui estimaient que c'était plus possible. Donc les choses ont évolué au cours du temps, je pense, beaucoup.
Il y a donc eu une évolution dans les profils, mais avec une constante, Jacques Monin.
Oui, si on reprend l'étude du HCR qu'on évoquait tout à l'heure et dont Élodie Guéguin va nous lire un extrait, il y a un phénomène massif.
La majorité des Syriens interrogés sont des hommes, à 81%. La plupart sont jeunes, 69% d'entre eux ont entre 18 et 35 ans. Et ils ont pour l'essentiel un assez haut niveau d'études, 86% ont fait des études secondaires ou des études universitaires.
Des hommes jeunes, souvent seuls, avec un assez haut niveau de formation. Comment s'explique cette surreprésentation masculine?
Alors pour ce qui concerne la forte présence d'hommes assez jeunes, c'est assez simple. En Syrie aujourd'hui, si vous êtes jeune et valide, vous avez le choix entre intégrer l'armée de Bachar al-Assad ou vous battre du côté des rebelles. Bref, si vous ne partez pas, vous risquez votre vie. Pour partir, il faut de l'argent, d'où la forte présence dans la première vague de migrants qualifiés. Et si vous partez seul, eh bien c'est pour épargner à votre femmes et à vos enfants un voyage périlleux. C'est ce que m'a expliqué un ex-avocat du barreau de Raqqa qui travaille aujourd'hui dans un restaurant de la région parisienne.
Il est d'usage que les hommes qui quittent la Syrie le fassent d'abord seuls, parce qu'il est très difficile de partir en famille avec 4 ou 5 personnes à cause des préparatifs et surtout des conditions dans lesquelles se déroule ce voyage. Dans la plupart des cas, le jeune part donc seul, puis il prépare le terrain avant de faire venir sa famille. Il doit trouver un travail, gagner de l'argent, faire des économies. Et une fois que ces conditions sont réunies, sa famille le rejoint par n'importe quel moyen, de manière légale, si c'est possible, et sinon, de manière illégale.
Oui, je précise que dans l'étude du HCR, 58% des Syriens interrogés confirment effectivement qu'ils ont l'intention de faire venir leur famille dans leur pays d'accueil.
Voilà donc pour les informations les plus fiables dont on dispose sur le profil de ces réfugiés syriens que nous accueillons. Maintenant, il y a quelque chose que l'on ne sait pas, ou peu, c'est que certains de ces réfugiés, 20% quand même, la France est allée directement les chercher.
Oui, on le sait peu, mais ils sont un millier à avoir obtenu le statut de réfugié, alors même qu'ils se trouvaient dans des camps aux frontières de la Syrie. En fait, on est allé les chercher sur place, leur proposer de venir chez nous, comme l'explique le directeur général de l'OFPRA, Pascal Brice.
La volonté du président de la République à la fin 2013 conduit l'OFPRA depuis lors à se rendre au Liban, en Jordanie et en Égypte régulièrement, où des officiers de protection de l'OFPRA conduisent des missions avec le HCR pour entendre des familles particulièrement fragiles, particulièrement vulnérables, les protéger et elles viennent ensuite en France.
Avec cette démarche volontariste, la France veut donc, Jacques Monin, si j'ai bien compris, marquer qu'elle n'est pas totalement insensible au sort de ces réfugiés syriens.
Oui, mais il faut savoir qu'elle n'est pas le seul pays à le faire. L'Allemagne, les États-Unis, le Canada accueillent aussi des réfugiés par cette voie-là. Et pour la porte-parole du HCR en France, Céline Schmitt, c'est non seulement une nécessité humanitaire, mais c'est aussi un devoir, dit-elle. Il faut soulager les pays frontaliers de la Syrie parce qu'ils portent encore l'essentiel du poids de l'accueil des réfugiés.
Le Liban, qui a une population d'un peu plus de 4 millions de personnes, accueille 1 200 000 réfugiés. La Jordanie en accueille 600 000. La Turquie accueille 2 200 000 réfugiés syriens. Donc il faut montrer la solidarité par rapport à ces pays. Mais aussi, ce programme est très important pour en fait proposer des voies légales aux réfugiés pour venir en Europe ou dans d'autres pays et éviter qu'ils risquent leur vie en traversant la mer Méditerranée ou la mer Égée pour venir chercher la paix en Europe.
Une démarche préventive, donc, en quelque sorte. Maintenant, le gros des migrants, lui, il arrive toujours par la Grèce.
Oui, et c'est pour ça que l'Union européenne a mis en place des sortes de hubs pour migrants, ce sont les fameux hotspots. L'idée, c'est d'identifier les migrants à leur arrivée et puis de les répartir dans des pays qui sont portés volontaires dans le cadre d'un autre programme européen qui s'appelle, lui, de relocalisation.
Et quel rôle joue la France dans ce plan?
Alors, elle a proposé d'accueillir 30 000 réfugiés d'ici 2 ans. Pour cela, elle a identifié des locaux, des centres de formation, des centres de vacances qui sont inoccupés en ce moment, par exemple, des monastères, etc. Au total, on dispose aujourd'hui de 5000 places d'hébergement.
Sauf que pour l'instant, ce dispositif, soyons très clairs, il ne marche pas.
C'est vrai, les chiffres sont cruels dans le cadre de ce plan. En décembre, on n'avait encore accueilli aucun Syrien, zéro. Seuls 19 Érythréens étaient arrivés dans la région de Nantes. Alors en janvier, 43 familles supplémentaires sont arrivées, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont une petite centaine, mais vous le voyez, on est encore très loin de l'objectif des 30 000.
Et comment on explique cet échec à l'OFPRA ?
Eh bien, on le relativise en soulignant qu'il faut du temps pour que les choses se rôdent. Pascal Brice, le patron de l'OFPRA, veut croire en tout cas que ce plan va finir par marcher.
La France est prête. Le ministère de l'Intérieur a mis en place des dispositifs notamment d'hébergement. L'OFPRA est prêt à faire les instructions. Simplement, il se passe que ce système est en rodage et pour l'instant, ce dispositif dit de relocalisation qui fait que je ne vais plus en Allemagne mais je vais dans l'un des autres pays européens, parmi lesquels la France. Pour l'instant, c'est un dispositif que les migrants connaissent peu et qui ne les dérive pas dans leur objectif qui est celui de l'Allemagne. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que dans les semaines ou les mois qui viennent, ce dispositif va fonctionner en régime de croisière.
Tout est prêt, nous dit Pascal Brice. La France pourrait donc accueillir un peu plus de réfugiés syriens dans les prochains mois, parce que le système va s'améliorer, mais aussi, et peut-être même surtout, à cause de ce qui est en train de se passer chez nos voisins.
Oui, parce que l'ambiance est en train de changer dans des pays où les migrants étaient les bienvenus. Jusqu'ici, on sent bien qu'il y a une fracture entre l'opinion publique et Angela Merkel. Le Danemark, lui, vient d'adopter sa loi dite des bijoux, qui permet de confisquer les biens des migrants pour financer leur séjour. Écoutez Michel Morzière, qui a fondé une association d'accompagnement des Syriens en France. Il observe les choses et il est convaincu que les lignes vont bouger.
Ça va terriblement évoluer, je vais vous dire, parce que l'Allemagne est en train de freiner. La Suède, vous avez vu, et le Danemark est en train de couper le pont là entre le Danemark et la Suède, entre Copenhague et Malmö. Le paradis allemand ou le paradis suédois commence à s'estomper. Donc il va y avoir un certain nombre de réfugiés qui vont se rediffuser autre part. Donc on va être confronté à résoudre des problèmes d'arrivée de ces réfugiés syriens, à mon avis.
Ils pourraient donc être plus nombreux avec un effet retard, en quelque sorte. Des réfugiés, en tout cas, qui, pour la plupart, resteront. Tous ceux que j'ai rencontrés dans le cadre de cette enquête m'ont en effet dit qu'ils souhaitaient tourner la page et se construire une nouvelle vie dans leur pays d'accueil.
Merci Jacques Monin pour cette enquête qui est à retrouver sur notre site franceinter.fr ainsi que sur la page Facebook de Secret d'Info en texte et en vidéo. Dans un instant, une seconde enquête. On va s'intéresser avec Anne Brunel à une fabuleuse énigme criminelle vieille de plus d'un siècle au point que l'on ne sait plus trop quelle est la part de vérité ou bien de légende.